Bien, bonjour à tous, je suis content d'être avec vous ce matin. Alors, c'est la première fois que je prêche par Zoom. C'est vrai que c'est un petit peu particulier et je pense que en fait cette période, ce qu'on a traversée, en fait, elle est tombée sur chacun de nous un peu à l'improviste. Personne ne s'y attendait. En tout cas, merci d'ouvrir une petite fenêtre et de m'inviter dans cette petite fenêtre. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est une pensée sur quelle heure est-il à l'heure de Dieu? Est-ce que toi, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis à l'heure de Dieu? Quand j'avais préparé cette prédication initialement, je parlais de l'activisme en introduction. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est comme si Dieu avait imposé une trêve au milieu de cet activisme. Bon, même si aujourd'hui les choses reprennent petit à petit, tout cas elles reprennent d'une façon différente. Et je faisais ce constat que dans nos vies, en fait, on est très sollicité tout le temps. Sollicité par les notifications de nos portables, WhatsApp, les SMS, etc. Et en fait, quand j'ai donné cette prédication, la première fois c'était à Chaumont, et il s'est passé quelque chose, c'est que on devait prendre la route avec mon épouse, et puis il y a eu un pépin, c'est que notre voiture démarrait pas. Et il y a un voisin qui nous a aidés à démarrer. Alors, mon épouse était un peu énervée, agacée, et finalement il s'est trouvé que donc on a pu dire à ce voisin que j'allais prêcher, et donc alors avec un petit air malicieux, il nous a dit, c'est peut-être Dieu qui m'a mis sur votre chemin. Je suis allé plus tard lui apporter une boîte de chocolat et un petit évangile, et on s'est revus après le confinement. Et aujourd'hui, il m'a soumis aussi une épreuve, une souffrance personnelle, en fait, en demandant la prière par texto. Et puis, probablement, il va passer une fois nous voir. Donc, faut que je le recontacte. Mais pour vous dire, en fait, nous, on a souvent, en fait, une compréhension du temps. Qui est très basé sur l'efficacité parce que on vit dans un monde qui court. Mais en fait, est-ce que nous avons une compréhension du temps qui est celle de Dieu? Donc, je reviens sur ces questions, en fait, que je vous ai données au départ, c'est quelle heure est-il à l'heure de Dieu? Est-ce que nous vivons à l'heure de Dieu? Et est-ce que nous savons aussi discerner ce que Jésus appelle les signes des temps? Peut-être cette crise du coronavirus est un signe des temps. Quelle heure est-il à l'heure de Dieu? Alors, je vais lire dans Matthieu 16, versets 1 à 3, un court extrait donc de l'évangile sur ces signes des temps, justement. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau. Car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alors, le signe des temps qui a été donné à la génération de Jésus, c'est le signe de Jonas, c'est-à-dire en fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après. Mais aujourd'hui, quelle heure est-il à l'heure de Dieu? Dieu a un cadran de montre qui est différent du nôtre. En fait, dans le temps de Dieu, j'aimerais dire une chose, c'est qu'il y a deux saisons. La première saison, c'est le temps, en fait, où se révèle petit à petit le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Et en fait, ce plan de sauvetage, il nous est pleinement révélé au travers de la venue de Jésus-Christ, par sa vie, par sa mort expiatoire, par sa résurrection d'entre les morts et par son ascension à la droite du Père en puissance. Et on a une deuxième saison qui est ce temps de la patience de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, depuis qu'il est monté à la droite du Père et qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit? Il est en train d'appeler des hommes et des femmes de toutes les nations, pour qu'un jour ils soient devant son trône et qu'ils puissent le louer. Il est en train de sauver. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, où Dieu désire sauver. Et comment nous conduire dans cette deuxième saison du temps de Dieu, qui est son temps de patience avant la fin? Alors, je pense que l'apôtre Paul répond à cette question et je vais maintenant lire le texte sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, qui est le texte de 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui passe. Il ne va pas durer toujours. C'est pourquoi je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre à un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Si je vous dis ces choses, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Alors, j'aimerais mettre quelque chose au point, c'est que ce matin, je ne vais pas prêcher sur le célibat, mais sur l'importance que notre cœur soit attaché au Seigneur comme à l'époux de notre âme et avec un cœur sans partage. Alors moi, je suis marié, je pense que ce à quoi l'apôtre Paul nous appelle dans ce texte, c'est à attacher notre cœur à Dieu. Alors, dans ce texte, Paul fait un constat et il en tire deux mots d'ordre pour nous, les croyants. Le constat de l'apôtre Paul, nous vivons dans un monde qui passe et le temps est court. Et les deux mots d'ordre que Paul nous adresse. Premier mot d'ordre, ne vous attachez pas à ce qui passe, justement, mais à ce qui dure. Deuxième mot d'ordre, attachez-vous au Seigneur sans inquiétude ni distraction. Alors, je vais revenir sur le constat de l'apôtre Paul. Nous vivons dans un monde qui passe et le temps est court. Alors, je pense que le temps est court, on en est tous plus ou moins convaincus. On dit d'ailleurs que le temps file comme un chat. Il y a une chanson chrétienne, en fait, qui date déjà un peu, qui disait ceci: Je crois tenir dans mes mains le présent, mais le passé me l'a déjà fauché. Et bien souvent, on a l'impression que le temps nous échappe. Et on a donc cette impression, oui, le temps est court, en effet. Mais il n'y a pas que pour nous que le temps est court. Le temps est court, on a beaucoup d'objectifs qu'on essaye de caser dans notre emploi du temps, mais Dieu lui aussi poursuit un objectif et il a hâte que son objectif soit atteint. Pour Dieu aussi, en un certain sens, le temps est court. Donc Dieu est pressé dans un certain sens, mais il est aussi patient. Ça peut paraître paradoxal. Et Dieu a hâte que tous les hommes, que le plus grand nombre soient sauvés. Parfois, nous oublions que la perception du temps que Dieu a est bien différente de la nôtre. Et j'aimerais lire maintenant un texte de l'apôtre Paul qui nous parle de cette saison de la patience de Dieu. Il est un point que vous ne devez pas oublier, mes bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1 000 ans, et 1 000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dieu revient pour juger les hommes et restaurer ce monde qui a été corrompu par le mal et par l'injustice. Selon l'apôtre Pierre, nous vivons donc dans un monde qui est voué à la destruction et nous devons vivre aussi dans l'attente d'un monde qui sera refait à neuf par Dieu, un monde où la justice habitera. En fait, un jour, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'entendra plus parler de coronavirus. Nos smartphones aussi, nos carrières professionnelles, nos maisons, ce monde tel que nous le connaissons, en fait, tout ça va être détruit. Et cela devrait orienter notre comportement dans le monde aujourd'hui. Et comment nous comporter dans l'aujourd'hui de Dieu, dans ce temps qui est le temps de sa patience? Quel est le projet de Dieu pour ce temps? Comment pouvons-nous donc nous conduire pour racheter le temps et pour hâter la venue du Seigneur? Pour le savoir, un conseil, nous devons nous aligner sur son projet à lui, sur sa vision à lui. Et ce projet, c'est quoi, à votre avis? Alors, d'habitude, j'aime bien donner la parole aux uns et aux autres, mais vous pouvez réfléchir. Quel est le projet de Dieu? Ben, son projet, c'est qu'aucun ne périsse. C'est que tous puissent le connaître et parvenir à la repentance. Et Dieu nous veut disponible, Dieu te veut disponible pour son grand projet de sauvetage de l'humanité. Et pour cela, il nous adresse par la bouche de Paul, deux mots d'exhortation, deux mots d'ordre. Et voici le premier mot d'ordre. Ne vous attachez donc pas à ce qui passe, mais à ce qui dure. Et ce qui dure, c'est ce trésor dans le ciel que Dieu nous promet. Jésus, en Luc 12, nous rapporte l'histoire d'un homme qui amasse ses récoltes dans des greniers. Alors, est-ce que nous, nous amassons encore du blé dans des greniers? On n'est pas des cultivateurs. Et pourtant, nous remplissons des comptes d'épargne, nous souscrivons à des contrats d'assurance, nous mettons parfois notre confiance dans des biens matériels, dans les choses de ce monde. Alors, est-ce que c'est mal d'être prévoyant? Certainement pas. Mais attention, n'attachons pas notre cœur, ne plaçons pas notre sécurité dans ces choses matérielles qui passent. Car, comme nous dit Jésus dans la parabole, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et qu'est-ce que le riche insensé de cette parabole se dit à lui-même? Alors il parle à son âme. On voit ça dans Luc 12, versets 19 à 21. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, une question pour toi maintenant. Pour qui es-tu riche? Pour toi-même ou pour Dieu? Dieu ne condamne pas ta richesse, certainement pas. Mais ce qu'il veut, vous vous souvenez de ce qu'on a vu en introduction de ce culte? Dieu nous veut intendant de choses qu'il nous a confiées de façon temporaire. Il veut que nous ayons une bonne intendance du temps qui nous est confié, des richesses aussi qui nous sont confiées. Donc Dieu ne condamne pas ta richesse, mais il veut que tu te souviennes que sur cette terre, tu n'es qu'étranger et voyageur. Un peu comme le père Abraham avec sa caravane de chameaux là, et de troupeaux qui migrait le long du croissant fertile. Il était voyageur. Pareil pour les Juifs errants dans le désert à l'époque de l'Exode. Nous sommes de passage sur cette terre. Et c'est aussi ce que nous rappelle la lettre aux Hébreux. Je lis Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Donc les grands hommes de foi du passé nous sont présentés comment? Comme des migrants, comme des voyageurs en route vers la cité céleste. Alors Dieu ne t'appelle pas aujourd'hui à vivre comme un brahman hindou, à te vêtir d'écorce, et puis à faire une retraite spirituelle à côté d'un étang sacré au sommet d'une montagne et à jeûner pendant des mois, non. La seule chose que Dieu désire, c'est que tu ne t'attaches pas à ce qui passe, mais à ce qui dure. Parce que sur cette terre, ce que nous dit aussi Jésus, en fait, les vers, les mythes et la rouille détruisent et rongent nos richesses. Et les voleurs, eh bien, ils volent. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Aussi, tout ce que Dieu t'a confié sur cette terre, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes enfants, ta maison, ta voiture, ton argent, ton métier, ta carrière, même tes responsabilités dans l'Église, c'est pas ta propriété à toi. C'est celle de Dieu. Et toi, tu n'es finalement qu'un intendant et un gérant temporaire de ces choses qui t'ont été confiées par le Créateur. Alors, quelques questions sur ce point. Auras-tu sur cette terre, lorsque Jésus reviendra, est-ce que tu auras été un intendant fidèle? Est-ce que tu auras cherché la gloire et le royaume de Dieu en premier dans tout ce que tu fais? Dans ton travail, dans ta famille, dans ton service et dans tes relations? Ou est-ce que tu auras cherché à accumuler des trésors pour toi-même, des trésors de sécurité, des trésors de plaisir, des trésors de mérite personnel? Veux-tu vivre à l'heure de Dieu? Alors fais-toi une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Luc 12, 33 et 34. Alors, l'homme, bien souvent dans la vie, est comme une fourmi. Il aime bien amasser des trésors. Mais je ne sais pas si vous le savez, Dieu lui aussi amasse des trésors. Il amasse une moisson dans ses greniers à lui. Est-ce que vous savez de quelle moisson je veux parler? La moisson du Seigneur, ce sont les œuvres bonnes de ceux qu'il a justifiés par son propre sang, et ce sont aussi les âmes de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui ont été arrachés à l'enfer par le témoignage de l'Évangile, arrachés au royaume de Satan et amenés dans le royaume de la lumière. Et toi, comment est-ce que tu participes à cette grande moisson de Dieu? Comment participes-tu au progrès de l'Évangile par ton témoignage et par les œuvres bonnes aussi que Dieu a préparées d'avance pour que tu les mettes en pratique? Il a préparé d'avance pour toi. Amasses-tu avec Dieu? Amasses-tu pour Dieu ou amasses-tu des choses pour toi-même? Jésus a dit ceci: celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, je rappelle le premier mot d'ordre que Paul nous donne pour vivre dans ce monde qui passe, c'est de ne pas nous attacher à ce qui passe, mais à ce qui dure, c'est-à-dire à ce trésor éternel qui est dans le ciel. Et le deuxième mot d'ordre que j'aimerais nous laisser et qui est vraiment, je pense, le plus important, attache-toi à ton Dieu. Voilà le remède à l'inquiétude et au tiraillement. Alors, cherches-tu à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Les deux à la fois, c'est pas possible. Parce que Dieu ne tolère pas de rivales. Paul a dit ceci: celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Mais j'aimerais faire une paraphrase un peu de ce texte de Paul, paraphrase un peu un peu personnel, mais je pense qu'il est approprié. Alors, celui qui n'est pas marié à sa carrière, celui qui n'est pas marié à son livre d'épargne, au chantier de rénovation de sa maison, celui qui n'est pas marié à ses projets de réussite, au projet de réussite qu'il a pour ses enfants, par exemple, ou même à son statut dans l'Église, il s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui s'attache de façon excessive, celui qui est marié, on pourrait dire, à sa carrière, à son livret d'épargne, au chantier de rénovation de sa maison, au projet de réussite qu'il a pour ses enfants, ou même à un statut dans l'Église, toutes choses qui sont bonnes mais qui peuvent devenir excessives en fait, celui-là s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire aux hommes. À qui cherchons-nous à plaire? À qui cherches-tu à plaire? Aux hommes ou à Dieu? Ce que nous dit Paul dans ce texte-là, c'est qu'un cœur partagé entre ce qui passe et ce qui dure, c'est un cœur inquiet. Et Dieu voudrait que nous soyons sans inquiétude. Le cœur partagé est inquiet, pourquoi? Parce qu'il a peur de manquer. Il a peur de perdre le contrôle sur les choses et sur les situations de la vie. Et pourtant, ton Dieu te dit aujourd'hui, je voudrais que tu sois sans inquiétude. Ainsi, si tu acceptes devant Dieu de te présenter à lui avec un cœur humble, un cœur sans partage, en lui apportant aussi ta fragilité, tes propres soucis, tu pourras apprendre à compter sur lui, à te décharger sur lui de tous tes soucis. Et alors lui prendra soin de toi. Il te promet cela dans sa parole. Enfin, un cœur partagé entre ce qui passe et ce qui dure, c'est un cœur qui est tiraillé. Il ne sait pas où est son trésor, sur la terre ou dans le ciel. Est-ce que vous avez déjà vu? En fait, je voulais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Imaginez un attelage qui est tiré par un cheval et par un âne. Le cheval veut brouter l'avoine qui se trouve dans le champ de gauche et l'âne veut aller manger la carotte qui se trouve dans le champ sur la droite. Eh bien, c'est la pagaille, on n'avance pas. Quand dans la marche avec Dieu, on boite de côté et d'autre, on n'avance pas et on est malheureux. Et c'est ce que Jésus a dit en Luc 6, versets 24 à 25, à ceux qui s'attachaient aux choses de la terre. Malheur à vous, les riches, car vous avez déjà votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Mais si tu confesses devant Dieu que ton cœur parfois est idolâtre, eh bien à ce moment-là, Dieu peut te libérer de toutes ces choses qui prennent de la place, trop de place peut-être dans ton cœur. Et Dieu voudrait te donner un cœur sans partage. Pour cela, une seule chose à faire, c'est de lui donner ton cœur. En fait, Dieu nous aime tous d'un amour jaloux. Son amour est saint et il ne tolère pas de rival. Et il nous dit ceci. Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui avez soif, heureux vous qui pleurez maintenant. Pourquoi? Parce que celui qui est pauvre, selon Dieu, il s'attache à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est son trésor. Et Dieu veut être ton trésor, parce qu'il t'aime, et qu'il veut t'enrichir de sa présence, de sa personne. Le royaume, c'est ce trésor qui vaut bien qu'on abandonne tout ce qui est futile. Alors, je vais conclure maintenant. Vis-tu à l'heure de Dieu, c'est-à-dire dans le temps de sa patience? Pour le savoir, Dieu te pose plusieurs questions. Es-tu attaché à ce qui passe ou à ce qui dure? As-tu réalisé que sur cette terre, tu n'es qu'un passager? Un voyageur et un intendant de choses qui t'ont été confiées pour une courte durée de temps. Dieu te demande encore ceci, en fait, te préoccupes-tu de mon royaume ou de tes affaires perso? À qui cherches-tu à plaire? À moi ou aux hommes? Alors, ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas les tiraillements d'une vie idolâtre et d'un cœur partagé. Mais s'il désire que tu participes à son grand projet en cherchant les progrès de son royaume à lui. Et Dieu t'appelle aujourd'hui, il te dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, et il te demande, où est ton cœur? Ton cœur est-il demeure dans l'inquiétude ou dans la confiance? L'attente confiante de ton Dieu peut te libérer de toutes tes inquiétudes. Alors, viens à moi sans tarder, te dit Dieu. Où est ton cœur? Est-il partagé? Est-il partagé ou entier pour moi? Dieu te dit ceci, je peux et je veux te donner un cœur entier pour moi. Pour cela, il y a une seule chose à faire. Fais tienne la prière qui m'a été adressée par David. Enseigne-moi tes voies, Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple. Donne-moi un cœur sans partage, afin que je craigne ton nom. J'aimerais conclure en priant. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à vivre avec ta vision des choses, de vivre avec ta perception des choses et du temps qui passe. Nous avons besoin de vivre à ton heure, à toi. Et Seigneur, tu sais ce qui peut dans nos vies prendre parfois toute la place, nous ravir notre paix. Et Seigneur, ce que nous désirons, Seigneur, c'est recevoir de ta part, Seigneur, ce cœur purifié, ce cœur sans partage. Nous désirons nous détacher, Seigneur, de ce qui passe, de ce qui prend parfois trop de place dans nos vies pour te consacrer notre cœur, pour t'aimer avec un cœur sans partage, afin que tu puisses y déposer ta paix. Nous désirons, Seigneur, vivre dans ton royaume, dans ta perspective et participer à ta moisson, Seigneur. Je voudrais te demander de visiter ce matin le cœur de tous ceux qui sont inquiets, de tous ceux qui sont chargés, de tous ceux qui sont fatigués, afin que tu viennes déposer en eux ta paix. Et je voudrais te demander, Seigneur, aussi de venir vraiment aussi nous réjouir dans cette attente de ton retour glorieux. Donne-nous de vivre, Seigneur, notre vie dans l'attente de ton retour. Et merci, Seigneur, pour ce grand salut qui nous a été révélé. Et pour cette perspective de cet avenir où nous pourrons, Seigneur, célébrer la gloire de ta grâce. Amen.